Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomé. Chapitre 23. Le crépuscule avait fait place à la nuit depuis quelques heures, et il était plus que l'après-midi dans ces quartiers de la ville que le monde consent à habiter, car le monde était alors, comme maintenant, retiré dans des dimensions très restreintes et logé à son aise dans un espace circonscrit, quand M. Chester s'étendit sur un sofa dans son cabinet de toilette au Temple, s'amusant à la lecture de quelques livres. Il s'habillait par intermittence pour se donner moins de mal à la fois, et comme il avait déjà fait la moitié de la besogne, il était à prendre un long repos. Complètement vêtu quant à ses pieds et à ses jambes, dans la plus correcte mode du jour, il avait encore le reste de sa toilette à faire. L'habit était étendu comme un élégant épouvantail sur son chevalet spécial, le gilet était déployé de la façon la plus avantageuse, les divers articles de parure étaient séparément étalés dans l'ordre le plus attrayant, et néanmoins, il restait assis là, ses jambes pendillant entre le sofa et le parquet, les yeux fixés sur son livre, avec autant d'attention que si toutes ces belles choses ne lui donnaient seulement pas la tentation de se lever. « Sur mon honneur, » dit-il en levant enfin ses yeux au plafond de l'air d'un homme qui réfléchit sérieusement à ce qu'il vient de lire, « sur mon honneur, voilà bien la plus capitale composition, les pensées les plus délicates, le code de morale le plus distingué, les plus gentlemanesques sentiments qu'il y ait au monde. Ah, Ned, Ned, si vous vouliez seulement former votre esprit par de tels préceptes, nous ne pourrions que nous entendre à merveille sur toutes les questions qui viendraient à s'agiter entre nous. » Cette apostrophe fut adressée, comme le reste de la remarque, au vide de l'air, car Édouard n'était pas présent, son père était tout seul. « Mais Lord Chesterfield, » dit-il en appuyant doucement sa main sur le livre lorsqu'il le déposa, « si j'avais seulement pu profiter de votre génie assez tôt pour former mon fils sur le modèle que vous avez laissé à tous les pères sages, nous serions riches à présent l'un et l'autre. » Shakespeare était incontestablement très distingué dans son genre, Milton a du bon, quoique prosaïque, Lord Bacon est profond, un vrai connaisseur, mais l'écrivain qui doit être à jamais l'orgueil de son pays, c'est Milord Chesterfield. Il redevint pensif et le cure-dent fut mis en réquisition. « Je me croyais vraiment un homme du monde, passablement accompli, » poursuivit-il. « Je me flattais d'être suffisamment versé dans tous ces petits arts et ces grâces qui distinguent les hommes du monde des rustres et des paysans et séparent leur caractère de ces sentiments horriblement vulgaires qu'on appelle le caractère national. En dehors de toute prévention naturelle en ma faveur, je croyais pouvoir me rendre cette justice. Et pourtant, dans chaque page de cet écrivain éclairé, je trouve quelque séduisante hypocrisie que je n'avais jamais rencontrée auparavant, quelques principes supérieurs d'égoïsme auxquels j'étais absolument étranger. Je rougirais tout à fait de moi-même devant cette prodigieuse créature si ces principes mêmes ne nous apprenaient à nous rougir de n'importe quoi. Quel homme étonnant, quel véritable grand seigneur! Un roi ou une reine peut faire un lord, mais le diable seul et les grâces peuvent faire un Chesterfield. Les hommes qui sont pétris de fausseté et de perfidie essayent rarement de se dissimuler ces vices, et toutefois, en se les avouant à eux-mêmes, ils prétendent aux vertus qu'ils feignent le plus de mépriser. Car, disent-ils, il y a de l'honnêteté à confesser la vérité. Tous les hommes sont comme nous, seulement ils n'ont pas la candeur d'en convenir. Plus de tels hypocrites affectent de nier que la sincérité existe sur la terre, plus ils voudraient qu'on crût qu'ils la possèdent sous sa forme la plus hardie. Et c'est ainsi qu'à leur insu, ces philosophes rendent à la vérité un hommage qui mettra contre eux les rieurs au jour du jugement. M. Chester, après avoir exalté son auteur favori par cet élan d'enthousiasme, reprit son livre dans l'excès de son admiration, et il se disposait à continuer la lecture de cette sublime morale quand il fut troublé par un bruit étrange à la porte extérieure. Il lui semblait que son domestique barrait le passage à quelque visiteur désagréable. Il est tard pour un créancier impatient, dit-il en levant ses sourcils avec une expression d'étonnement aussi indolente que si le bruit eût été dans la rue et ne l'eût pas concerné lui-même le moins du monde. Il est beaucoup plus tard que ces gens-là n'ont coutume de venir. Le prétexte ordinaire, je suppose. Sans doute un fort paiement à faire demain. Pauvre garçon, il perd son temps. Et le temps est de l'argent, comme dit le bon proverbe, quoique pour moi je n'ai jamais vu cela. Eh bien, qu'y a-t-il ? Vous savez que je n'y suis pas. Un homme, monsieur, répliqua le domestique, qui était dans son genre d'une tout aussi grande froideur et d'une tout aussi grande indolence que son maître, a rapporté chez vous la cravache que vous avez perdue l'autre jour. Je lui ai dit que vous étiez absent, mais il a déclaré qu'il attendrait que je vous eusse apporté cette cravache et ne s'en irait pas avant. Il avait complètement raison, répondit son maître, et vous êtes un imbécile sans aucune espèce de jugement ni de discernement. Dites-lui d'entrer et veillez à ce qu'il essuie ses souliers pendant 5 minutes précises avant d'entrer. Le domestique posa la cravache sur une chaise et se retira. Le maître, qui avait seulement entendu ses pas sur le parquet sans prendre la peine de se retourner pour le voir, ferma son livre et poursuivit le cours de ses idées, interrompu par l'entrée du valet. « Si le temps était de l'argent, dit-il en maniant sa tabatière, je transigerais avec mes créanciers et je leur donnerais, voyons donc, combien chaque jour. Il y a mon somme après dîner, 1 heure. Je peux leur sacrifier cela bien volontiers pour qu'ils en tirent le meilleur parti possible. Le matin, entre mon déjeuner et le journal, je leur réserverai 1 autre heure. Et le soir, avant dîner, mettons encore 1 heure. 3 heures chaque jour, ils se payeraient eux-mêmes en visite avec les intérêts dans l'espace de 12 mois. J'ai envie de leur en faire la proposition quelque jour. Ah, mon centaure, et vous qui êtes là ?
C'est moi,
répondit Hugues en entrant à grandes enjambées, suivi d'un chien aussi rude et aussi farouche que lui.
J'ai eu assez de mal à arriver jusqu'ici. Pourquoi donc me demandez-vous de venir et me laissez-vous dehors quand je viens ?
Mon bon garçon, répliqua l'autre en levant un peu sa tête de dessus le coussin et l'examinant avec insouciance de la tête aux pieds, je suis enchanté de vous voir et d'acquérir par votre présence ici la preuve la plus convaincante qu'on ne vous laisse pas dehors, quoi que vous en disiez. Comment allez-vous ?
Je vais assez bien, dit Hugues impatienté.
Vous avez l'air de jouir d'une merveilleuse santé. Asseyez-vous.
Je préfère rester debout, dit Hugues.
« À votre aise, mon bon garçon, répondit M. Chester, se levant, ôtant lentement l'ample robe de chambre qu'il portait et s'asseyant devant sa toilette. « Faites comme vous voudrez. » Cela dit, du ton le plus poli, le plus aimable, M. Chester commença de s'habiller sans plus s'occuper de son hôte. Celui-ci restait debout à la même place, incertain de ce qu'il devait faire maintenant et regardant de temps en temps d'un air boudeur.
« Allez-vous me parler, maître ?» dit-il après un long silence.
« Ma digne créature, répliqua M. Chester, vous êtes un peu ému, et vous ne paraissez pas de bonne humeur. J'attendrai que vous soyez tout à fait dans votre assiette. Je ne suis pas pressé. » Cette conduite produisit immédiatement son effet. Elle humilia l'homme, elle le couvrit de confusion et le rendit plus irrésolu encore et plus incertain. De dures paroles, il y eut riposté. La violence, il l'eût remboursée avec les intérêts. Mais cet accueil froid, affable, dédaigneux, d'un personnage maître de lui-même, lui fit sentir son infériorité d'une manière beaucoup plus complète que ne l'eussent fait les raisonnements les mieux élaborés. Tout contribuait donc à le déconcerter. Son rude langage, si mal assorti avec les accents doucement persuasifs de l'autre, son geste inculte et les façons polies de M. Chester, le désordre et la négligence de ses vêtements déguenillés et l'élégant costume qu'il voyait devant lui, l'aspect de la chambre remplie d'un voluptueux confort auquel il n'était pas accoutumé, le silence qui lui donna le loisir d'observer ces choses et de sentir comme elles le mettaient mal à son aise, toutes ces influences qui n'opèrent que trop souvent sur des esprits cultivés, mais qui deviennent d'une puissance presque irrésistible quand elles pèsent sur un esprit grossier comme le sien, domptèrent Hugues en un moment. Il s'avança peu à peu, plus près de la chaise de M. Chester, et, regardant par-dessus l'épaule la figure du gentleman, son interlocuteur, reflétée par le miroir, comme s'il cherchait dans son expression quelque encouragement, il dit enfin, avec un rude effort de conciliation, « Voulez-vous me parler, maître, ou faut-il que je m'en aille ? »
Parlez, vous, dit M. Chester. C'est à vous de parler, mon bon garçon. J'ai parlé, moi, n'est-ce pas? J'attends maintenant que vous parliez à votre tour. Mais voyons, monsieur, répliqua Hugues avec un embarras qui ne faisait que croître, ne suis-je pas l'homme auquel vous avez laissé en particulier votre cravache avant de quitter à cheval l'arbre de mai, en lui disant de vous la rapporter lorsqu'il désirerait vous parler sur un certain sujet? Certainement, si vous êtes bien cet homme, ou il faut que vous ayez un frère jumeau, dit M. Chester en regardant l'inquiète figure de Hugues, reflétée aussi par le miroir, ce qui n'est pas probable, n'est-ce pas? Je suis donc venu, monsieur, dit Hugues, vous rapporter cela en y joignant autre chose. C'est une lettre, monsieur, que j'ai prise à la personne qui en était chargée. En même temps, il posa sur la toilette l'épître même d'Emma, cette missive dont la perte avait causé tant de chagrin à Dolly. « Avez-vous enlevé ceci de vive force, mon bon garçon ?» dit M. Chester en y jetant les yeux, sans le moindre signe visible d'étonnement ou de plaisir. « Pas tout à fait, » dit Hugues, « pas tout à fait. » « Qui était le messager auquel vous l'avez pris ?»« Une femme, la fille d'un nommé Varden. » « Oh, vraiment, » dit gaiement M. Chester, « ne lui avez-vous pas encore pris autre chose ?»« Quelle autre chose ?»« Oui, » dit le gentleman d'un ton traînant, car il était occupé à fixer un tout petit morceau de taffetas d'Angleterre sur un tout petit bouton à l'un des coins de la bouche. « Autre chose ?»« Eh bien, un baiser. Et rien de plus ? Rien ?»« Je présume, » dit M. Chester avec la même aisance et en souriant deux ou trois fois pour voir si le petit morceau de taffetas adhérait bien au petit bouton, « je présume qu'il y avait quelque autre chose. J'ai entendu parler d'un bijou, une simple bagatelle, une chose de si minime valeur en vérité que vous pouvez ne plus vous en souvenir. Vous rappelez-vous quelque chose de ce genre ? Un bracelet, par exemple ?» Hugues, en marmottant un jurement, plongea la main dans sa poitrine, et tirant de là le bracelet, enveloppé d'une poignée de foin, il allait mettre le tout sur la toilette, quand son patron, arrêtant sa main, l'invita à remettre le bijou à l'endroit où il était. « Vous avez pris cela pour vous, mon excellent ami, dit-il, gardez-le donc. Je ne suis ni un voleur ni un receleur, ne me le montrez pas. Vous ferez mieux de le cacher, et promptement, ne me montrez pas non plus l'endroit où vous le mettez, ajouta-t-il en détournant la tête. Vous n'êtes pas un receleur, dit Hugues d'un ton brusque, malgré le respect croissant que lui inspirait le gentleman. Comment appelez-vous cela, maître? Et il frappa la lettre de sa main pesante. J'appelle cela d'une manière toute différente, dit froidement M. Chester. Je vais vous le prouver à l'instant, vous verrez. Vous avez soif, je suppose? Hugues, passant sa manche en travers de ses lèvres, répondit oui d'un air rechigné. « Allez à ce cabinet, apportez-moi une bouteille que vous y trouverez et un verre. » Il obéit, son patron le suivit des yeux, et quand il eut tourné le dos, M. Chester sourit alors, ce qu'il n'avait eu garde de faire tant que Hugues était debout à côté de la glace. À son retour, il remplit le verre et lui dit de boire. Cette goutte expédiée, il en versa une autre, puis une autre. « Combien pouvez-vous boire ? » dit-il en remplissant le verre de rechef. « Autant qu'il vous plaira de m'en donner, versez toujours, remplissez tout plein. Une rasade avec la mousse par-dessus. Quelqu'un qui m'en donnerait à mon contentement, » ajouta-t-il en entonnant le liquide dans sa gorge barbue, « j'irai pour lui assassiner un homme s'il me le demandait. » « Comme je n'ai pas l'intention de vous le demander. » Et que vous le feriez peut-être sans qu'on vous le demandât. Si vous continuiez de boire, dit M. Chester avec un grand calme, nous nous arrêterons, s'il vous plaît, mon bon ami, au prochain verre. N'avez-vous pas déjà bu avant de venir ici ? Je bois toujours quand je peux trouver à boire, cria Hugues d'une voix bruyante en agitant au-dessus de sa tête le verre vide et prenant vivement la pose grossière d'un satyre qui va entrer en danse. Je bois toujours ! « Pourquoi pas ? Y a-t-il jamais rien eu qui m'ait fait tant de bien ? Non, non, rien, jamais. N'est-ce pas tout ce qui me défend du froid dans les nuits piquantes, qui me soutient lorsque je meurs de faim ? Qu'est-ce donc qui m'aurait jamais donné la force et le courage d'un homme quand les hommes m'auraient laissé mourir, chétif enfant ? Sans cela, est-ce que j'aurais jamais eu le cœur d'un homme ? Je serais mort dans un fossé, quel est celui qui, du temps où j'étais un pauvre malheureux, faible, maladif, les jambes flageolantes et les yeux éteints, m'a jamais remis le cœur au ventre comme un verre de ça. Jamais, jamais. Je bois à la santé de la boisson, maître. Vous êtes un jeune homme d'un entrain extraordinaire, dit M. Chester en mettant sa cravate avec une grande circonspection et remuant légèrement sa tête d'un côté à l'autre pour installer son menton à sa place. Un vrai luron. Voyez-vous cette main, maître, et ce bras, dit Hugues, mettant à nu jusqu'au coude le membre musculeux, tout ça n'était autrefois que de la peau et des os, et ça ne serait plus que de la poussière dans quelque pauvre cimetière sans la boisson. Vous pouvez le couvrir, dit M. Chester, on le verrait tout aussi bien dans votre manche. Je n'aurais jamais eu l'audace de prendre un baiser à l'orgueilleuse petite beauté, maître, sans la boisson. Cria Hugues. C'était un bon baiser, un doux comme miel, je vous le garantis. C'est encore à la boisson que je dois ce baiser-là. Je veux boire encore à la boisson, maître. Remplissez-moi ce verre. Allons, encore une fois. Vous êtes un garçon qui promettait trop, dit son patron en mettant son gilet avec le soin le plus scrupuleux et sans tenir compte de sa requête. Il est de mon devoir de vous garder des impulsions trop vives. Qui résulterait infailliblement pour vous de la boisson et qui peuvent vous faire pendre prématurément. Quel âge avez-vous ?
Je ne sais pas.
En tous les cas, dit M. Chester, vous êtes assez jeune pour échapper, pendant quelques années encore, à ce que je peux appeler une mort naturelle. Comment venez-vous donc vous livrer dans mes mains sur une si courte connaissance avec la corde autour du cou ? Et il faut que vous soyez d'une nature bien confiante. Hugues recula d'un pas ou deux et l'examina d'un air où se mêlaient la terreur, l'indignation et la surprise. Quant à son patron, en se regardant dans le miroir avec la même affabilité qu'auparavant et parlant d'une manière aussi aisée que s'il eût discuté quelque agréable commérage de la ville, il poursuivit « Le vol sur une grande route, mon jeune ami, est une occupation dangereuse et chatouilleuse. » Elle est agréable, je n'en doute pas, tant qu'elle dure, mais comme tous les autres plaisirs en ce monde où tout passe, rarement elle dure longtemps. Et en réalité, si dans la candeur de la jeunesse, vous êtes si prompt à ouvrir votre cœur sur ce sujet, je crains que votre carrière ne soit extrêmement limitée.
« Qu'est-ce si ? » dit Hugues. « De quoi parlez-vous là, maître ? Qui m'y a poussé ?»«
Qui donc ? » dit M. Chester en pivotant avec vivacité et le regardant en face pour la première fois. « Je ne vous ai pas bien entendu. Qui est-ce » Hugues se troubla et marmotta quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. « Qui est-ce ? Je suis curieux de le savoir, » dit M. Chester avec une affabilité des plus grandes. « Quelque rustique beauté, peut-être. Mais soyez prudent, mon bon ami, il ne faut pas toujours se fier à ces fillettes. Prenez note de l'avis que je vous donne et faites attention à vous. » En disant ces mots, il se retourna vers le miroir et continua sa toilette. Hugues lui aurait bien répondu que c'était lui qui lui faisait cette question, qu'il y avait poussé. Mais les mots se collèrent dans sa gorge. L'art consommé avec lequel son patron l'avait amené là, l'habileté avec laquelle il avait dirigé toute la conversation, dérouta complètement le pauvre diable. Il ne douta pas que s'il eût lâché la riposte qui était sur ses lèvres quand M. Chester se retourna si vivement, ce gentleman ne l'eût fait arrêter sur le champ et ne l'eût traîné devant un magistrat avec l'objet volé en sa possession, auquel cas il eût été pendu, aussi sûr qu'il était né. L'ascendant que l'homme du monde avait voulu prendre sur ce sauvage instrument fut conquis dès cet instant, et la soumission de Hugues fut complète. Il en eut une peur affreuse, il sentait que le hasard et l'artifice venaient de lui filer un bout de chanvre qui, au moindre mouvement, d'une main aussi habile que celle de M. Chester, le suspendrait à la potence. En proie à ses pensées qui traversèrent rapidement son esprit, et pourtant se demandant encore comment il pouvait se faire qu'au moment même où il venait en tapageur pour s'imposer lui-même à cet homme, il se fut laissé au contraire subjuguer si vite et si complètement. Hugues se tenait humble et timide devant M. Chester, le regardant de temps en temps avec une espèce de malaise, tandis qu'il finissait de s'habiller. Quand le gentleman eut fini, il prit la lettre, rompit le cachet et, se jetant en arrière dans sa chaise, lut à loisir les pages d'Emma d'un bout à l'autre. « Tout à fait bien troussé sur ma vie. Une vraie lettre de femme. C'est plein de ce qu'on appelle tendresse, désintéressement et tout ce qui s'ensuit. En parlant ainsi, il tortilla le papier et regardant avec indolence du côté de Hugues, comme s'il eût voulu dire « Vous voyez ?» il le présenta à la flamme de la bougie. Quand le papier fut tout en flamme, il le jeta sur la grille et l'y laissa se consumer. « C'était adressé à mon fils, » dit-il en se tournant vers Hugues. « Vous avez eu complètement raison de me l'apporter. Je l'ai ouvert sous ma responsabilité personnelle et vous voyez ce que j'en ai fait. Prenez ceci pour votre peine. » Hugues, s'avançant de quelques pas, reçut la pièce d'argent que M. Chester lui tendait. Lorsque ce dernier la lui remit dans la main, il ajouta « S'il vous arrivait de trouver quelque autre chose de cette sorte, ou de recueillir quelques renseignements qu'il vous parut que je puisse désirer connaître, apportez-les ici. Voulez-vous, mon bon garçon ?» Cela fut dit avec un sourire qui signifiait, ou du moins, Hugues le crut, « Manquez-y et vous me le payerez. » Il répondit qu'il n'y manquerait pas. « Et ne soyez pas, » reprit son patron de l'air du plus affectueux patronage, « ne soyez pas du tout abattu ou mal à votre aise au sujet de cette petite témérité dont nous avons parlé. Votre cou est aussi en sûreté dans mes mains que si c'était un bébé qui le caressa dans ses petits doigts, je vous assure. Buvez encore un coup, maintenant que vous êtes plus tranquille. » Hugues l'accepta de sa main et, regardant à la dérobée sa figure souriante, il but en silence le contenu. « Eh bien, vous ne buvez plus. Vous ne buvez donc plus à la boisson ?» dit M. Chester de sa manière la plus séduisante. « Vous, monsieur, » répondit l'autre d'un air assez gauche, en faisant quelque chose comme une révérence, « c'est à vous que je bois. Merci. Dieu vous bénisse. À propos, quel est votre nom, mon brave homme ? On vous appelle Hugues, oui, je sais, mais votre autre nom ?
Je n'ai pas d'autre nom.
Un bien étrange garçon. Voulez-vous dire par là que vous ne vous en êtes jamais connu d'autre ou que vous aimez mieux l'oublier ? Lequel des deux ?
Je vous dirais mon autre nom si je le savais, reprit Hugues avec vivacité. Mais je ne m'en connais pas d'autre. On m'a toujours appelé Hugues, rien de plus. Je ne me suis jamais ni vu ni connu de père. Je n'y ai seulement pas songé. J'étais un petit garçon de 6 ans. Je n'ai pas bien vieux lorsqu'on pendit ma mère à Tyburn pour procurer à 2000 hommes le plaisir de la voir à la potence. On aurait pu la laisser vivre. Elle était assez malheureuse. « C'est triste, bien triste, » dit son patron avec un sourire plein de condescendance. « Je ne doute pas qu'elle ne fût extrêmement belle. »«
Voyez-vous mon chien ?» dit Hugues d'un ton brusque. « Fidèle, je parie, » répliqua son patron, lorgnant le chien. « Et plein d'intelligence. Les animaux vertueux et bien doués, hommes et bêtes, sont toujours très hideux. Ce chien que vous voyez, et un de la même portée, furent la seule chose vivante, excepté moi, qui poussa des cris plaintifs ce jour-là, dit Hugues. De 2000 hommes et davantage, la foule était plus nombreuse parce que c'était une femme, le chien et moi, nous fûmes les seuls à ressentir quelque pitié. Si j'avais été un homme, il aurait été bien aise d'être débarrassé d'elle, car elle avait été contrainte par la misère de le laisser maigrir et presque mourir de faim. Mais comme ce n'était qu'un chien et qu'il n'avait pas naturellement les sentiments d'un homme, il en eut du chagrin. « C'est pure stupidité de bête brute, certainement, » dit M. Chester, « et bien digne d'une bête brute comme lui. » Hugues ne répliqua pas, mais sifflant son chien, qui bondit au sifflement et vint sauter et gambader autour de lui, il souhaita le bonsoir à son ami, le gentleman sympathique. « Bonsoir, » répondit M. Chester. « N'oubliez pas que vous êtes en sûreté avec moi, tout à fait en sûreté. Aussi longtemps que vous le mériterez, mon bon garçon, et vous le mériterez toujours, j'espère, vous aurez en moi un ami sur le silence duquel vous pouvez compter. Maintenant, faites attention à vous et songez à quoi vous vous exposez. Bonsoir, Dieu vous assiste. » Hugues, intimidé par le sens caché de ses paroles, fit le chien couchant et gagna la porte en rampant, pour ainsi dire, d'une manière si soumise et si subalterne, d'une façon en un mot si différente des airs de bravache qu'il avait en entrant, que son patron, resté seul, sourit plus que jamais. « Et cependant, » dit-il en prenant une prise de tabac, « je n'aime pas qu'on ait pendu sa mère. Ce garçon a un bel œil. Je suis sûr qu'elle était belle. Mais très probablement, c'était une grossière créature. » Elle avait peut-être un nez rouge et de gros vilains pieds. baste. Tout a été pour le mieux, sans aucun doute. » Après cette réflexion consolante, il mit son habit, adressa un regard d'adieu au miroir et sonna son domestique. Celui-ci parut promptement, suivi d'une chaise et de ses porteurs. « Pouah !» dit M. Chester, « l'atmosphère que ce centaure m'a apportée est empestée. Cela pue l'échelle et la charrette. Ici, Pic, apportez quelque eau de senteur et arrosez le parquet. Prenez la chaise sur laquelle il s'est assis et exposez-la à l'air. Jetez un peu de cette essence sur moi. Je suis suffoqué. » Le domestique obéit, puis la chambre et le maître étant tous deux purifiés, M. Chester n'eut plus qu'à demander son claque, à le placer gracieusement plié sous son bras, à s'asseoir dans la chaise et à se laisser emporter dehors en fredonnant un air à la mode.
Chapitre 24. Comment ce gentleman distingué passa la soirée au milieu d'un cercle brillant, éblouissant, comment il enchanta tous ceux dont il s'approcha par la grâce de son maintien, la politesse de ses manières, la vivacité de sa conversation et la douceur de sa voix, comment on remarqua dans chaque coin du salon que Chester était un homme d'une heureuse humeur, que rien ne le troublait, que les soucis et les erreurs du monde ne lui pesaient pas plus que son habit, et que sa figure souriante reflétait constamment un esprit calme et tranquille. Comment d'honnêtes gens, qui par instinct le connaissaient mieux, s'inclinèrent néanmoins devant lui, pleins de déférence pour chacune de ses paroles et courtisant la faveur d'un de ses regards. Comment des gens qui avaient réellement du bon se laissèrent aller au courant, le flattèrent, l'adulèrent, l'approuvèrent et se méprisèrent eux-mêmes de tant de bassesse. Comment, en un mot, il fut un de ceux qui sont reçus et choyés dans la société par nombre de personnes qui, individuellement, se fussent éloignées avec dégoût de celui qui faisait en ce moment l'objet de leur attention avide. Voilà des choses si naturelles qu'elles se présenteront d'elles-mêmes à nos lecteurs. De pareilles platitudes sont si communes qu'elles ne valent à peine qu'un coup d'œil rapide, et c'est tout. Les gens qui méprisent l'humanité, je ne parle pas des imbéciles et des comédiens qui se font de cela une religion, sont de deux sortes. Ceux qui croient leur mérite négligé et incompris forment la première classe. Ceux qui recueillent la flatterie et l'adulation, sachant bien leur propre indignité, composent l'autre. Soyez sûr que les misanthropes qui ont le cœur le plus froid sont toujours de la dernière. Monsieur Chester était dans son lit, sur son séant, le lendemain matin, et buvant à petits traits son café. Il se rappelait, avec une espèce de satisfaction méprisante, comment il avait brillé la veille au soir, comment il avait été caressé et courtisé, lorsque son domestique lui apporta un très petit morceau de papier sale, étroitement cacheté à deux places et à l'intérieur duquel étaient écrits en assez gros caractères les mots suivants « Un ami, on désire une conférence, immédiatement, en particulier, brûlez cela après l'avoir lu. » « Où donc, au nom de la conspiration des poudres, avez-vous ramassé cela ?» dit son maître. Cela lui avait été donné par une personne qui attendait maintenant à la porte. Telle fut la réponse du domestique. « Avec un manteau et un poignard ?» dit M. Chester. « Cette personne n'avait sur elle rien de plus menaçant à ce qu'il m'a semblé qu'un tablier de cuir et une figure sale. Qu'elle entre ?» Elle entra. C'était M. Tappertit, avec ses cheveux encore hérissés et dans sa main une grande serrure qu'il déposa sur le parquet au milieu de la chambre, comme s'il eût été prêt à exécuter quelque représentation où devait figurer une serrure. « Monsieur, » dit M. Tappertit en faisant un profond salut, « je vous remercie de votre condescendance et je suis bien aise de vous voir. » « Excusez l'emploi servile dans lequel je suis engagé et étendez votre sympathie sur un homme qui, malgré son humble apparence, travaille
intérieurement à une œuvre fort au-dessus de son rang social. M. Chester écarta les rideaux du lit plus en arrière et regarda ce visiteur avec une vague idée que c'était quelque maniaque qui non seulement avait forcé la porte de sa loge, mais avait emporté la serrure par-dessus le marché. M. Tappertit salua de nouveau et développa ses jambes dans l'attitude la plus avantageuse. « Vous avez entendu parler, monsieur, » dit M. Tappertit en mettant sa main sur sa poitrine, « de Gabriel Varden, serrurier, pose les sonnettes et exécute proprement les réparations à la ville et à la campagne, Clerkenwell, Londres. »« Eh bien, après ?» demanda M. Chester. « Je suis son apprenti, monsieur. »« Eh bien, après ?» dit M. Tappertit, « voulez-vous me permettre de fermer la porte, monsieur ? Et voulez-vous, en outre, monsieur, me donner votre parole d'honneur que ce qui se passera entre nous demeurera strictement confidentiel ?» M. Chester se recoucha dans son lit avec calme et tournant une figure où il n'y avait pas le moindre trouble vers l'étrange apparition qui, pendant ce temps, avait fermé la porte, il pria l'inconnu de s'expliquer aussi raisonnablement que possible, si cela ne le gênait pas. « En premier lieu, monsieur, » dit M. Tappertit, exhibant un petit mouchoir de poche et le secouant pour le déplier, « comme je n'ai pas de carte sur moi, l'envie des maîtres nous ravale au-dessous de ce niveau, souffrez que je vous offre ce que les circonstances me fournissent de mieux en remplacement d'une carte. » Si vous voulez prendre ceci dans votre main, monsieur, et jeter les yeux sur le coin qui est à votre droite, dit M. Tappertit en présentant d'un air gracieux son mouchoir, vous y trouverez mes lettres de créance. Je vous remercie, répondit M. Chester en acceptant ce mouchoir avec politesse et regardant à l'un des bouts quelques caractères d'un rouge de sang. 4. Simon Tappertit. Est-ce cela ? C'est mon nom, monsieur. Ne faites pas attention aux numéros, répliqua l'apprenti. Les numéros ne sont là que comme de simples indications pour la blanchisseuse, sans aucune connexion avec moi ni ma famille. Votre nom, monsieur, dit M. Tappertit en regardant fixement le bonnet de nuit du gentleman, est Chester, je suppose. Vous n'avez pas besoin de l'ôter, monsieur, je vous remercie. Je vois d'ici E.C. Nous tiendrons le reste pour chose convenue. Monsieur Tappertit, je vous prie, dit Monsieur Chester, cette pièce compliquée de serrurerie que vous m'avez fait la faveur d'apporter avec vous a-t-elle quelque connexion immédiate avec l'affaire que nous avons à discuter ? Elle n'en a aucune, monsieur, répliqua l'apprenti, c'est que j'allais la poser à la porte d'un magasin dans Thames Street. Peut-être en ce cas, dit Monsieur Chester, comme elle a un parfum d'huile grasse, un peu plus fort que je n'ai l'habitude d'en rafraîchir ma chambre à coucher, voudrez-vous bien m'obliger de la déposer dehors, à la porte ? Certainement, monsieur, dit M. Tappertit, se hâtant d'acquiescer à ce désir. Vous m'excuserez de cette observation, j'espère. Ne vous en excusez pas, monsieur, je vous prie. Et maintenant, s'il vous plaît, à notre affaire. Durant tout le cours de ce dialogue, M. Chester n'avait rien laissé paraître sur sa figure que son sourire de sérénité et de politesse inaltérable. Sim Tappertit, qui avait de lui-même une opinion beaucoup trop bonne pour soupçonner que n'importe qui pût s'amuser à ses dépens, s'imagina reconnaître là quelque chose du respect qui lui était dû et fit de cette conduite courtoise d'un étranger à son égard une comparaison qui n'était point du tout favorable à celle du digne serrurier, son patron. « D'après ce qui se passe chez nous, dit M. Tappertit, je suis instruit, monsieur, d'un commerce que votre fils entretient avec une jeune demoiselle contre vos inclinations. Votre fils ne s'est pas bien conduit avec moi, monsieur. » « Monsieur Tappertit, dit l'autre, vous me peinez au-delà de toute expression. » Je vous remercie, monsieur, répliqua l'apprenti. Je suis aise de vous entendre parler ainsi. Il est très fier, monsieur votre fils, très hautain. J'en ai peur, dit Monsieur Chester. Savez-vous que je le craignais un peu déjà, mais votre témoignage ne me permet plus d'en douter. Racontez les corvées serviles que j'ai eu à faire pour votre fils, monsieur, dit Monsieur Tappertit, les chaises que j'ai eu à lui donner, les voitures que j'ai eu à aller lui chercher, les nombreuses besognes dégradantes et sans la moindre connexion avec mon contrat d'apprentissage que j'ai eu à subir pour lui, remplirait une bible de famille. D'ailleurs, monsieur, ce n'est lui-même, au bout du compte, qu'un jeune homme, et je ne considère pas « merci, Sim » comme une formule convenable de politesse en ces occasions. Monsieur Tappertit, vous avez une sagesse au-dessus de votre âge. Continuez, je vous prie. Je vous remercie de votre bonne opinion, monsieur, dit Sim très flatté, et je tâcherai de la justifier. Maintenant, monsieur, à cause de ce grief, et peut-être encore pour une ou deux raisons qu'il est inutile de vous déduire, je suis de votre côté, et voici ce que je vous dis. Tant que nos gens iront et viendront ça et là, en long et en large, à ce vieux joyeux arbre de mai, là-bas, avec des lettres, des commissions, mille choses qu'on porte, qu'on va chercher, vous ne sauriez empêcher votre fils d'entretenir commerce avec cette jeune demoiselle par délégué, quand tous les horse-gardes le surveilleraient nuit et jour en grand uniforme, depuis le premier jusqu'au dernier. » Monsieur Tappertit s'arrêta pour prendre haleine après cette hypothèse, puis il reprit son élan. « Maintenant, monsieur, j'arrive au point capital. Vous demanderez comment empêcher cela. Je vais vous dire comment. Si un honnête civil et souriant gentleman tel que vous... » « Monsieur Tappertit, réellement... »« Non, non, je parle sérieusement, » répliqua l'apprenti, « je parle sérieusement ma parole d'honneur. Si un honnête civil et souriant gentleman tel que vous consentait à causer seulement pendant 10 minutes avec notre vieille femme, Madame Varden, et à la flatter un brin, elle vous serait acquise à jamais, et nous obtiendrions cet autre résultat que sa fille, Dolly... » Ici, une rougeur subite se répandit sur la figure de Monsieur Tappertit, n'aurait plus la permission de servir dorénavant d'intermédiaire. Mais rien ne l'en empêchera tant que nous n'aurons pas la mère pour nous. Songez-y bien. Monsieur Tappertit, votre connaissance de la nature humaine... Attendez une minute, dit Sim, en croisant ses bras avec un calme effrayant. J'arrive à présent au point le plus capital. « Monsieur, il y a un scélérat à cet arbre de mai, un monstre sous forme humaine, un vagabond fini. Si vous ne vous en débarrassez pas, si vous ne le faites pas au moins enlever et confisquer, vous ne réussirez à rien. Il mariera votre fils, soyez-en sûr et certain, comme s'il était l'archevêque de Canterbury en personne. Il le fera, monsieur, vu la haine malicieuse qu'il vous porte, et à part le plaisir de faire une mauvaise action qui suffit pour le payer de toutes ses peines. » Si vous saviez comment ce gaillard, ce Joseph Willett, c'est son nom, va et vient chez nous, vous diffamant, vous dénonçant, vous menaçant, et comme je frémis quand je l'entends, vous le haïriez plus que je ne fais, monsieur, dit Monsieur Tappertit d'un air farouche, en hérissant sa chevelure encore davantage et en grinçant des dents, comme s'il voulait écraser son ennemi sous ses molaires, si c'était possible. Une petite vengeance particulière. « Monsieur Tappertit, vengeance particulière, monsieur, ou intérêt public, ou tous les deux combinés, n'importe. Détruisez-le, » répliqua Monsieur Tappertit. « Miggs le dit comme moi. Miggs et moi, voyez-vous, nous ne pouvons souffrir tous ces complots souterrains qui vont leur train. Nos cœurs s'en révoltent. Barnabé Rudge et Madame Rudge sont dans l'affaire également, mais c'est ce scélérat de Joseph Willett qui est le meneur. » Leurs complots et leurs plans sont connus de moi et de Miggs. Si vous désirez vous renseigner là-dessus, vous n'avez qu'à vous adresser à nous. Ah bah, Joseph Willett, monsieur, détruisez-le, écrasez-le, et ce sera bien fait. » En disant ces mots, Monsieur Tappertit, qui semblait ne pas attendre de réplique et regarder comme une conséquence nécessaire de son éloquence que son auditeur fût tout à fait abasourdi, muet d'admiration, réduit au mutisme et anéanti, croisa ses bras de telle sorte que la paume de chacune de ses mains resta sur l'épaule opposée et il disparut
à la manière de ces conseillers mystérieux dont il avait vu les allures dans les livres de contes à bon marché. « Ce garçon, dit M. Chester en détendant sa figure, lorsque l'apprenti fut déjà loin, est bon pour m'entretenir la main. Il faut vraiment que je sois maître de ma physionomie comme je le suis pour ne pas pouffer de rire. Mais avec tout cela, il n'en confirme pas moins pleinement mes soupçons. Il y a telles circonstances où des outils émoussés valent mieux pour l'usage qu'on en veut faire que des instruments bien raffinés. Je crains d'être obligé de faire un grand ravage parmi ces dignes gens. Fâcheuse nécessité. J'en suis tout à fait désolé pour eux. » Cela dit, il commença par s'assoupir tout doucement, puis il tomba petit à petit dans un sommeil si paisible, si agréable, qu'il avait tout à fait l'air d'un enfant qui fait son dodo. Chapitre 25. Laissant l'homme favorisé, bien reçu et flatté par le monde, l'homme du monde le plus mondain, qui jamais ne se compromit en dérogeant au code du gentleman, qui jamais ne fut coupable d'une action virile, dormir dans son lit en souriant, car le sommeil lui-même, n'opérant qu'un faible changement sur sa figure dissimulée, devenait chez M. Chester une espèce d'hypocrisie conventionnelle et calculée, nous allons suivre deux voyageurs qui se dirigent lentement à pied vers Chigwell. Barnabé et sa mère, Grip les accompagnent bien entendu. La veuve, à qui chaque pénible mille semblait plus long que le dernier, poursuivait sa route triste et fatigante. Barnabé, cédant à toutes les impulsions du moment, voltigeait çà et là, tantôt la laissant loin derrière lui, tantôt musant loin derrière elle, tantôt s'élançant en quelques ruelles détournées ou quelques sentiers, pendant qu'elle continuait seule sa route, et puis apparaissant de nouveau à la dérobée et arrivant sur elle avec un hurrah de folle joie selon les inspirations de sa fantasque et capricieuse nature. Tantôt il l'appelait de la branche la plus élevée de l'un des plus hauts arbres du bord de la route, tantôt, se servant de son grand bâton en guise de perche à sauter, il volait par-dessus un fossé ou une haie ou une barrière à cinq traverses, tantôt, avec une vitesse étonnante, il courait un mille ou plus sur la route, tout droit devant lui, et faisait halte pour jouer avec Grip sur un peu de gazon jusqu'à ce qu'elle le rejoignît. C'était là ses délices, et quand sa patiente mère entendait sa voix ou qu'elle regardait sa figure animée et pleine de santé, elle n'aurait pas voulu gâter ses plaisirs par une triste parole ni par un murmure, quoique la gaieté insouciante et salubre qui faisait le bonheur de son fils fût pour elle, par réflexion, la source de ses souffrances éternelles. C'est quelque chose pourtant d'avoir sous les yeux le spectacle de la gaieté libre, impétueuse, à la face de la nature, lors même que c'est la gaieté folâtre d'un idiot. C'est quelque chose de savoir que le ciel a laissé une place pour le contentement dans la poitrine d'une telle créature. C'est quelque chose d'être assuré que si légèrement qu'on voit les hommes détruire cette faculté chez leurs semblables, le grand créateur de l'humanité l'accorde au plus humble, au plus méprisé de ses ouvrages. Qui ne préférerait être témoin du bonheur d'un idiot en plein soleil plutôt que des angoisses languissantes de l'homme le plus sensé dans une ténébreuse prison. Jean d'une austérité lugubre, vous dont le pinceau prête au visage de l'infinie bienveillance un continuel froncement de sourcils, lisez ce livre éternel tout grand ouvert à vos yeux et retenez la leçon qu'il vous donne. Ses peintures n'ont pas des nuances noires et sombres, mais des teintes brillantes et éblouissantes. Sa musique, si ce n'est quand vous la couvrez de vos croassements, ne consiste pas en soupirs et en gémissements, mais en chansons et en joyeux accords. Écoutez ces millions de voix dans l'air d'été, et trouvez-en une seule aussi lamentable que la vôtre. Rappelez-vous, si vous pouvez, le sentiment d'espoir et de plaisir que chaque riant retour du jour éveille dans la poitrine de tous vos semblables qui n'ont pas changé leur nature. Et apprenez quelque sagesse même des pauvres d'esprit, quand leurs cœurs sont soulevés, ils ne savent pas pourquoi, par toute l'allégresse et tout le bonheur
que le jour renaissant leur apporte. Le sein de la veuve était rempli d'inquiétude. Il était accablé d'affliction et d'une secrète épouvante. Mais la gaieté de cœur de son fils la réjouissait et trompait les ennuis de ce long voyage. Quelquefois, il l'invitait à s'appuyer sur son bras et il restait bien tranquille à côté d'elle pendant une courte distance, mais il était plus dans sa nature de rôder çà et là et elle avait plus de plaisir encore à le voir libre et heureux qu'à le garder auprès d'elle parce qu'elle l'aimait plus qu'elle-même. Elle avait quitté l'endroit où il se rendait, aussitôt après l'événement qui avait changé toute leur existence, et depuis 22 ans, elle n'avait jamais eu le courage de retourner le visiter. C'était son village natal. Quelle foule de souvenirs s'empara de son esprit lorsque Chiguel frappa sa vue. 22 ans, toute la vie et toute l'histoire de son garçon. La dernière fois qu'elle avait jeté en arrière un regard sur ses toits au milieu des arbres, elle l'emportait dans ses bras, enfant en bas âge. Que de fois depuis ce temps, elle était restée assise à ses côtés jour et nuit, épiant l'aube de l'intelligence qui jamais ne parut. Quelles avaient été ses craintes, ses doutes, et cependant ses espérances, longtemps encore après avoir acquis la conviction d'un mal sans remède. Les petits stratagèmes qu'elle avait inventés pour l'éprouver, les petites marques qu'il avait données dans ses actes enfantins, non pas de stupidité, mais de quelque chose d'infiniment pis, tant sa malice était affreuse et peu semblable à l'espièglerie d'un enfant, lui revinrent à la mémoire aussi vivement que si cela se fût passé la veille. La chambre dans laquelle il se tenait ordinaire, la place où était son berceau, lui-même enfin, avec sa figure de vieux petit marmousé, mais toujours chéri de sa mère, fixant sur elle un œil égaré et sans regard, et bourdonnant quelques chants bizarres, tandis que, assise à ses côtés, elle le berçait, toutes les circonstances de son enfance se représentèrent en foule, et les plus triviales furent peut-être les plus distinctes. La seconde enfance aussi, les étranges imaginations qu'il avait, sa terreur de certaines choses insensibles, objets familiers qu'il animait et douait de la vie, la marche lente et graduelle de cette subite horreur au milieu de laquelle, avant sa naissance, son intelligence obscurcie était éclose, comment, au milieu de tout cela, elle avait trouvé quelque espérance et quelque consolation à voir qu'il ne ressemblait pas aux autres enfants, comment elle en était presque venue à croire au tardif développement de sa raison jusqu'à ce qu'il fût devenu un homme et qu'alors son enfance fût complète et durable. Toutes ses anciennes pensées jaillirent de suite dans son esprit, plus fortes après un long sommeil et plus amères que jamais. Elle prit son bras et ils traversèrent à la hâte la rue du village. C'était bien le même village tel qu'elle l'avait connu jadis. Néanmoins, elle le trouvait un peu changé, il avait un autre air. Le changement venait d'elle et non de lui, mais elle ne songeait pas à cela. Elle s'étonnait de ne plus lui trouver la même physionomie. Elle se demandait à quoi cela tenait. Tout le monde reconnut Barnabé. Les enfants s'attroupèrent autour de lui, comme elle se souvenait de l'avoir fait avec leur père et leur mère, autour de quelques mendiants idiots, lorsqu'elle était un enfant elle-même, mais personne ne la reconnut. Ils passèrent devant chaque maison qu'elle se rappelait bien, chaque cour, chaque enclos, et pénétrant dans les champs, ils se retrouvèrent bientôt seuls. La garenne fut le terme de leur voyage. Monsieur Herdel se promenait dans le jardin. Il les vit passer devant la porte de fer et, l'ayant ouverte, il leur dit d'entrer par là.
« Enfin, vous avez eu le courage de visiter l'antique demeure, » dit-il à la veuve. « Je vous sais gré de cet effort. »«
J'y viens pour la première fois, monsieur, et pour la dernière, » répliqua-t-elle.
« La première depuis bien des années, mais non pas la dernière. »«
Oh, la dernière !»«
Voulez-vous dire, » repartit monsieur Herdel, en la regardant avec quelque surprise, « qu'après avoir fait cet effort, vous êtes résolu de ne pas y persévérer et que vous allez retomber dans votre faiblesse ? Oh, ce serait indigne de vous. Je vous ai souvent dit que vous devriez revenir ici. Vous y seriez plus heureuse que partout ailleurs, j'en suis sûr. Quant à Barnabé, il est ici comme chez lui. »«
Et Grippe aussi, » dit Barnabé en présentant son petit panier ouvert. Le corbeau sautilla gravement dehors, se percha sur l'épaule de son maître et, s'adressant à M. Herdel, il cria, comme pour donner à entendre peut-être que quelque rafraîchissement modéré ne serait pas de refus.
« Polly, mettez la bouilloire au feu, du thé pour tous !»«
Écoutez-moi, Marie,
dit affectueusement M. Herdel, comme il lui faisait signe de le suivre vers la maison. « Votre vie a été un exemple de patience et de courage, sauf cette unique faiblesse qui m'a souvent causé beaucoup de peine. C'est bien assez de savoir que vous fûtes cruellement enveloppé dans la catastrophe qui me priva d'un frère unique et Emma de son père, sans être obligé de supposer, comme cela m'arrive parfois, que vous nous associez avec l'auteur de notre double infortune. Vous associez avec lui, monsieur ? Cria-t-elle. Réellement, dit M. Herdel, je vous en accuse quelquefois. Je suis tenté de croire que, comme de nombreux liens attachaient votre mari à notre parent, et qu'il est mort à son service et pour sa défense, vous en êtes venu, en quelque sorte, à nous confondre dans l'assassinat dont il a été victime aussi. Hélas, répondit-elle, que vous connaissez peu mon cœur, monsieur, que vous êtes loin de la vérité. C'est une idée si naturelle. Il est probable qu'elle vous vient malgré vous et à votre insu, dit M. Herdel, se parlant à lui-même plutôt qu'à elle. Nous sommes une maison déchue. L'argent, dispensé de la main la plus prodigue, ne serait qu'une pauvre indemnité pour des souffrances telles que les vôtres. Répandu avec économie par des mains aussi étroitement serrées que les nôtres, il devient une misérable dérision. « Je sens cela, Dieu le sait, » ajouta-t-il avec précipitation. « Pourquoi m'étonnerais-je qu'elle le sente aussi ?»«
Vous me faites vraiment tort, cher monsieur, » répondit-elle avec une grande vivacité. « Et quand vous aurez entendu ce que je désire avoir la permission de vous dire,
je verrai mes soupçons se confirmer, » dit-il en observant qu'elle balbutiait et devenait confuse. « C'est bien. » Il accéléra sa marche pendant quelques pas, mais il revint bientôt se mettre à ses côtés. « Et enfin, » dit-il, « vous avez fait tout ce chemin seulement pour me parler. »«
Oui, » répliqua-t-elle.
« Malédiction, » murmura-t-il, « sur notre pitoyable position de gueux orgueilleux, également déplacé que nous sommes près du riche et près du pauvre, l'un forcé de nous traiter avec une apparence de froid respect, l'autre nous montrant de la condescendance en toutes ses actions et ses paroles, et nous tenant davantage à distance à mesure qu'il nous approche. » Dites-moi, au lieu de vous donner la peine de rompre pour si peu de choses la chaîne d'habitude qu'ont forgé 22 ans d'absence, ne pourriez-vous pas me faire connaître votre désir de recevoir ma visite ?
Je n'en ai pas eu le temps, monsieur, répondit-elle. Je n'ai pris ma résolution que la nuit dernière, et l'ayant prise, j'ai senti qu'il me fallait, sans perdre un jour, pas même une heure, avoir un entretien avec vous.
Ils avaient, pendant ce dialogue, atteint la maison. M. Herdel s'arrêta un moment et la regarda comme s'il était étonné de l'énergie de ses manières. Remarquant toutefois qu'elle n'avait pas l'air de faire attention à lui, mais qu'elle levait les yeux et jetait en frissonnant un regard sur ces vieilles murailles qui s'unissaient dans son esprit à de semblables horreurs, il la mena par un escalier particulier dans sa bibliothèque où Emma était à lire, assise à la fenêtre. Cette jeune personne, voyant qui s'approchait, se leva précipitamment et mit son livre de côté, puis, avec beaucoup de paroles affectueuses et non sans larmes, elle voulut faire à la veuve l'accueil le plus empressé, le plus cordial. Mais celle-ci se déroba à son embrassement, comme si elle avait peur d'elle, et s'affaissa, tremblante, sur une chaise.
« C'est l'effet de votre retour ici, après une si longue absence, » dit Emma avec douceur. « Sonnez, je vous prie, cher oncle, ou plutôt, ne bougez pas. Barnabé courra lui-même demander du vin. »«
Non, pour tout au monde, » cria la veuve, « il aurait un autre goût, je ne pourrais pas y toucher. Je n'ai besoin que d'une minute de repos, rien que cela. »
Mademoiselle Herdel resta debout près de sa chaise, la regardant avec une compassion silencieuse. Elle demeura un peu de temps, tout à fait tranquille, puis elle se leva et se tourna vers M. Herdel, qui s'était assis dans sa bergère et la contemplait avec l'attention la plus soutenue. La légende rattachée au manoir semblait, comme nous l'avons déjà dit, le prédestiné à devenir le théâtre d'un crime pareil à celui qui avait ensanglanté ses murs. La chambre dans laquelle il se trouvait, voisine de la chambre même où le meurtre s'était accompli, ténébreuse, mélancolique et morne, surchargée de livres mangés au verre, close par des rideaux qui amortissaient et étouffaient chaque son, couverte d'ombres lugubres par des arbres dont les branches bruissantes venaient continuellement ainsi que des spectres frapper les carreaux, avait plus que toutes les autres chambres de la maison un air sinistre et funèbre. Le groupe même qui se trouvait là offrait des personnages appropriés aussi à ce lieu terrible. La veuve, avec sa figure tressaillante et ses yeux baissés, M. Herdel, sévère et morne comme toujours, sa nièce auprès de lui, ressemblant, malgré de très grandes différences, au portrait de son père qui, de la muraille noircie, les considérait d'un air de reproche. Barnabé, avec son regard vague et ses yeux mobiles, tous répondaient bien au lieu de la scène et aux acteurs de la légende. Le corbeau lui-même, qui avait sauté sur la table où, semblable à un vieux nécromancien, il paraissait étudier profondément un grand volume in-folio ouvert sur un pupitre, était en harmonie avec le reste, on aurait dit une incarnation du mauvais esprit, attendant son heure de faire le mal. « Je sais à peine, dit la veuve en rompant le silence, par où commencer. Vous allez croire qu'il y a du trouble dans ma raison. »
Tout le cours de votre vie paisible et irréprochable, depuis que vous avez quitté la Garenne, répondit doucement M. Herdel, portera témoignage en votre faveur. Pourquoi craignez-vous d'exciter un pareil soupçon? Vous ne parlez pas à des étrangers. Ce n'est pas la première fois que vous avez à réclamer notre intérêt ou notre considération. Remettez-vous, prenez courage. Quelque avis ou quelque assistance que vous réclamiez de ma part, vous savez qu'ils vous appartiennent de droit, qu'ils vous sont pleinement acquis.
« Que diriez-vous donc, monsieur, si j'étais venu, répliqua-t-elle, moi qui n'ai pas d'autre ami que vous sur la terre, pour rejeter votre aide à partir de ce moment et pour vous dire que désormais je me lance sur l'océan du monde seul et sans soutien, prête à y enfoncer ou y surnager selon que le ciel en décidera.
Vous auriez, si vous étiez venu vers moi dans une semblable intention, dit avec calme M. Herdel, quelque motif à me donner sans doute d'une conduite si extraordinaire. Et malgré l'étonnement que pourrait me causer une résolution si soudaine et si étrange, naturellement, je ne la traiterai pas légèrement.
C'est là, monsieur, répondit-elle, ce qu'il y a de déplorable dans mon malheur. Je ne puis vous donner de motif. Ma résolution, sans explication aucune, est tout ce que je puis vous offrir. C'est mon devoir impérieux et forcé. Si je ne le remplissais pas, je serais une créature vile et criminelle. Maintenant que je vous ai dit cela, mes lèvres sont scellées, je ne puis vous en dire davantage.
Comme si elle se fût sentie soulagée d'en avoir tant dit, et que cela lui eût donné du nerf pour le restant de sa tâche, elle continua de parler d'une voix plus ferme et avec plus de courage.
« Le ciel m'est témoin, comme l'est mon propre cœur, et le vôtre, chère demoiselle, parlera pour moi, je le sais, que j'ai vécu, depuis le temps dont nous avons tous d'amers sujets de nous souvenir, dans un dévouement et une gratitude invariables pour cette famille. » Le ciel m'est témoin que, n'importe en quel lieu j'aille, je conserverai les mêmes sentiments à jamais inaltérables. Il m'est témoin encore que seul me pousse dans la voie que je vais suivre et dont rien à présent ne me détournera, aussi vrai que j'espère en la miséricorde divine.
« Voilà d'étranges énigmes, » dit M. Herdel.
« Dans ce monde, monsieur, répliqua-t-elle, peut-être ne seront-elles jamais expliquées. Dans un autre, la vérité se découvrira d'elle-même. » Et puis ce temps, ajouta-t-elle à voix basse, être bien éloigné.
Voyons, dit M. Herdel, si je vous comprends bien, car je doute de mes propres sens. Voulez-vous dire que vous êtes volontairement résolu à vous priver des moyens de subsistance que vous avez si longtemps reçus de nous, que vous êtes déterminé à résigner la rente que nous vous avons faite il y a 20 ans, à quitter votre maison, votre intérieur, tout ce qui vous appartient, pour recommencer une vie nouvelle, et cela pour quelque secret motif ou quelque monstrueuse fantaisie qui n'est pas susceptible d'explication, qui n'existe que d'aujourd'hui et n'a pas cessé de dormir dans l'ombre pendant tout ce temps. Au nom de Dieu, à quelle illusion êtes-vous en proie ?
Aussi vrai que je suis profondément reconnaissante, répondit-elle, des bontés de ceux qui, vivants ou morts, ont été ou sont les propriétaires de cette maison. Aussi vrai que je ne voudrais pas que son toit tombât et m'écrasât, ou que ses murs suassent du sang lorsqu'ils entendent prononcer mon nom, aussi vrai est-il que je ne subsisterai plus jamais aux dépens de leur libéralité, ni que je ne souffrirai quelle aide à ma subsistance. Vous ne savez pas, ajouta-t-elle avec promptitude, à quels usages vos bienfaits peuvent être appliqués, dans quelles mains ils peuvent passer. Je le sais et j'y renonce.
Sûrement, dit M. Herdel, vous êtes maîtresse de l'emploi de cette rente.
Je le fus. Je ne saurais l'être plus longtemps. Il se peut qu'elle soit, elle l'est, consacrée à un usage qui raille les morts dans leur tombeau. Cela ne peut que me porter malheur, attirer encore quelque affreuse condamnation du ciel sur la tête de mon cher fils, dont l'innocence souffrira des fautes de sa mère.
« Quel mot viens-je d'entendre là ? » cria M. Herdel en la regardant avec étonnement. « Parmi quels associés êtes-vous donc tombé ? Quelle est cette faute où l'on vous aurait entraîné par surprise.
Je suis coupable et pourtant innocente. J'ai tort et j'ai raison, pure d'intention et contrainte de protéger et d'aider les méchants. Ne me questionnez pas davantage, monsieur, mais croyez que je suis plutôt à plaindre qu'à condamner. Il faut que j'abandonne demain ma maison, car tandis que je me trouve ici, elle est hantée. Ma future résidence, si je veux y vivre en paix, doit être un mystère. Si mon pauvre garçon poussait un jour de ses courses errantes de ce côté, ne tentez pas de découvrir notre asile, car si on nous relance, il nous faudra fuir encore. Et maintenant, mon esprit est délivré de ce fardeau. Je vous conjure, monsieur, ainsi que vous, chère demoiselle Herdel, d'avoir confiance en moi, si vous pouvez, et de penser à moi aussi affectueusement que vous avez accoutumé de le faire. Si je meurs sans pouvoir dire mon secret, même alors, car cela peut arriver, grâce à l'œuvre d'aujourd'hui, ma poitrine sera plus légère à l'heure suprême, et le jour de ma mort, et chaque jour jusqu'à ce que celui-là vienne, je prierai pour vous deux, je vous remercierai, et je ne vous troublerai plus jamais. » Cela dit, elle voulait les quitter, mais ils la retinrent, et avec beaucoup de paroles d'encouragement et d'affectueuses insistances, ils la supplièrent de considérer ce qu'elle faisait, et par-dessus tout, d'avoir en eux plus de confiance, et de leur dire ce qui accablait son esprit d'une façon si navrante. La voyant sourde à leurs efforts de persuasion, M. Herdel s'avisa d'une dernière ressource. Il suggéra l'idée que la veuve prit pour confidente Emma, qui, à raison de sa jeunesse et de son sexe, l'effrayerait peut-être moins que lui. Cette proposition, toutefois, la fit reculer avec la même expression de répugnance qu'elle avait manifestée au commencement de leur entrevue. Tout ce qu'on put obtenir d'elle, ce fut une promesse de recevoir chez elle M. Herdel le lendemain soir, et d'employer cet intervalle à réfléchir de nouveau sur sa résolution et sur leurs conseils, quoiqu'il n'eût pas du tout à espérer, leur dit-elle, aucun changement de sa part. Cette condition acceptée enfin, ils laissèrent à contre-cœur partir la veuve, puisqu'elle ne voulait ni boire ni manger dans la maison, et en conséquence, elle, Barnabé et Grippe, s'en allèrent comme ils étaient venus, par l'escalier particulier et la porte du jardin, sans voir personne et sans que personne les vît sur le chemin. Une chose remarquable chez le corbeau, c'est que, durant tout le cours de l'entrevue, il tint ses yeux fixés sur son livre, exactement de l'air du plus rusé coquin qui aurait feint de lire avec une extrême attention, mais qui aurait tout écouté sans perdre un seul mot. Il fallait même que la conversation qu'il venait d'entendre occupât fortement son esprit. Car lorsqu'ils furent seuls tous les trois, tout en donnant des ordres pour l'immédiate préparation d'innombrables bouilloires dans le but de prendre du thé, il restait pensif et semblait plutôt céder à un sentiment abstrait de devoir qu'au désir de se rendre agréable et d'être ce qu'on appelle communément de bonne compagnie. Les voyageurs devaient retourner à Londres par la diligence. Comme il y avait un intervalle de 2 grandes heures avant qu'elle partît et qu'ils avaient besoin de repos et de quelque nourriture, Barnabé insista pour une visite à l'arbre de mai. Mais sa mère, qui ne souhaitait pas d'être reconnue et qui craignait en outre que M. Herdel, après réflexion, n'envoyât à sa recherche quelques messagers vers cet établissement, proposa d'attendre dans le cimetière au lieu d'aller à l'arbre de mai. Rien n'étant plus aisé pour Barnabé que d'acheter et d'apporter là les humbles aliments qu'il leur fallait. Celui-ci consentit avec joie et bientôt ils furent assis dans le cimetière à prendre leur frugal repas. Là encore, le corbeau prit une attitude de haute méditation. Il se promena de long en large quand il eut dîné, de l'air d'un grave gentleman et avec une telle importance qu'il ne lui manquait plus que d'avoir ses mains sous les pans retroussés de son habit. Il fit semblant de lire les pierres tumulaires en critique consommée. Quelquefois, après avoir longuement examiné une épitaphe, il aiguisait son bec sur la tombe et criait d'un ton rauque
« Je suis un démon ! Je suis un démon ! Je suis un démon !»
Après cela, il n'est pas sûr du tout qu'il adressât ses allusions à la personne qui était censée reposer dessous. Il est bien possible qu'il ne les vociféra que comme une réflexion générale. Le cimetière était un joli endroit fort paisible, mais bien triste pour la mère de Barnabé, car M. Reuben Herdel gisait là, et près du caveau où ses cendres reposaient, elle pouvait voir une pierre élevée à la mémoire de son propre époux, avec une courte inscription mentionnant quand et comment il avait perdu la vie. Elle s'assit là, pensive et à l'écart, jusqu'à ce que leur temps se fût écoulé et que le son lointain du cor annonça que la diligence arrivait.
Barnabé, qui dormait sur le gazon, bondit à ce bruit, et Grippe, qui parut l'entendre aussi bien que lui, entra tout droit dans son panier, suppliant la société en général, comme s'il voulait faire une espèce de satire contre ceux qui avaient des rapports avec les cimetières, de ne jamais avoir peur dans aucun cas. Ils furent bientôt tous trois penchés sur la diligence et roulèrent sur la route. On passa devant l'arbre de mai et on s'arrêta à la porte. Joe était absent, Hugues vint avec sa nonchalance accoutumée tendre le paquet demandé, il n'y avait pas à craindre que le vieux John sortît. Ils purent, du fait de la diligence, le voir profondément endormi dans son confortable comptoir. C'était là une particularité du caractère de John, il se faisait un point d'honneur d'aller dormir à l'heure de la diligence, il dédaignait de flâner par là. Il regardait les diligences comme des choses qui auraient dû être poursuivies en justice parce qu'elles troublaient le repos de l'humanité comme des inventions d'une activité continuelle, sans cesse en mouvement, toujours affairée, ne servant qu'à souffler dans un corps tout à fait au-dessous de la dignité d'homme et convenant seulement à de folles jeunes filles qui ne savaient que babiller et courir les boutiques. « Nous ne nous occupons pas ici des diligences, monsieur, » avait coutume de répondre John, si quelque étranger malchanceux prenait auprès de lui quelque information sur ces odieux véhicules. « Nous n'enregistrons pas pour les diligences, elles donnent plus d'embarras qu'elles ne valent, avec leur bruit et leur tintamarre. Si vous voulez les attendre, vous le pouvez, mais nous ne nous occupons pas d'elles. Il est possible qu'elles s'arrêtent, il est possible qu'elles ne s'arrêtent pas. Il y a un messager, on le trouvait fort suffisant pour nous quand j'étais petit garçon. » Elle baissa son voile lorsque Hugues grimpa et tandis qu'il causa avec Barnabé en chuchotant, mais ni lui ni aucune autre personne ne lui parla, ni ne fit attention à elle, ni ne montra la moindre curiosité à son sujet. Et ce fut ainsi que, comme une étrangère, elle visita et quitta le village où elle était née, où elle avait vécu joyeuse enfant, gracieuse jeune fille, heureuse épouse, où elle avait connu toutes les jouissances de la vie et où elle avait commencé la carrière de ses chagrins les plus cruels.